Bonjour Sébastien Rutès, on ne vous croisera pas à Arras ce 1er mai 2020, confinement oblige. Vous deviez participer au Salon du livre d'expression populaire de critique sociale à l'occasion de la parution de votre dernier roman en date. Mictlan, au niveau de la prononciation, Sébastien Rutès, on dit comment ?
On dit plutôt Mictlan, voilà. Mais c'est bien, vous avez bien fait claquer la langue sur le TL, Mictlan. Avec l'accent à la fin.
Voilà, donc Mictlan, et qui est paru dans la collection La Noire aux éditions Gallimard. On reviendra aussi sur cet éditeur et cette collection. Mais avant cela et avant d'aborder donc le roman, un petit mot de présentation. Alors côté roman, vous sévissez depuis quelques années déjà, et en général sur son versant noir. Vous étiez d'ailleurs présent à Arras le 1er mai 2012, j'ai regardé les archives pour La Mélancolie des Corbeaux chez Actes Noirs, toujours le noir, et vous aviez à l'époque participé à une rencontre coup de jeune sur le roman noir avec Kyle Ferré et Antonin Varenne, c'était au niveau du studio mobile de Radio PFM. Ça va, ça ne nous vieillit pas trop, c'était il y a 8 ans. Alors votre marque de fabrique, c'est sans doute l'éclectisme des sujets qui vous inspirent et leur exotisme, entre guillemets, Corbeau, donc Vespasienne, et puis pour le dernier roman, Camion frigorifique. À côté de l'écriture romanesque, il est dit, c'est dans la présentation qui est faite de vous dans le dernier livre, Mictlan, donc, il est dit que vous avez enseigné durant 15 ans la littérature latino-américaine à l'université. Donc si on comprend bien, vous ne le faites plus, Sébastien Rutès.
Oui, c'est ça. Je suis actuellement en situation de disponibilité, c'est-à-dire que je suis toujours maître de conférence pour l'Université de Lorraine, mais je n'enseigne pas depuis 2 ans à peu près. La raison en est que j'ai emménagé à Londres, je vivais à Paris avant, donc maintenant je suis en Angleterre, pour des raisons familiales. Donc il était un petit peu difficile de continuer à mener ma carrière universitaire à l'université de Nancy. Donc j'ai mis ça entre parenthèses et j'essaie en contrepartie de développer ma carrière littéraire. Je fais de la traduction. Mmh. Et puis, comme vous l'avez dit, les romans, dont Mictlan est le dernier. Ouais.
Alors justement, donc Londres, oui... Merci d'accepter cette interview d'au-delà de la Manche. Alors bon, on est tous dans la même situation avec quand même des conditions qui sont différentes. Mais comment ça se passe en ce moment, en période d'épidémie de coronavirus? Comment ça se passe sur Londres?
Alors ici, on est rentré en confinement un peu plus tard que vous, à peu près 2 semaines plus tard que la France. Avec un confinement un peu moins strict, on n'a pas ici d'attestation à remplir, on n'a pas de distance de promenade, enfin les gens sortent un petit peu plus, on est moins fliqué, il faut le dire. C'est pas une situation très difficile à vivre pour moi personnellement, parce que comme pas mal de mes collègues, j'ai une existence plutôt casanière, enfin, je travaille beaucoup, j'ai un enfant en bas âge, alors je m'occupe de lui aussi, donc en général, de toute façon, je ne sors pas énormément, donc ça ne change pas grand-chose pour moi. L'ambiance est un petit peu étrange à Londres, enfin, c'est pas très différent de la France à ce point de vue-là. Le Premier ministre Boris Johnson, comme vous devez le savoir, a complètement disparu des écrans radars depuis 3 semaines, donc les autres ministres du gouvernement essaient tant bien que mal de prouver qu'il y a une continuité au pouvoir, mais enfin, ça semble pas très clair à la plupart des gens. Et les polémiques montent, hein, comme en France, ça a beaucoup enflé ces derniers jours, notamment sur tout ce qui est équipement de production, de protection, notamment les masques. Il y a une pénurie ici aussi. Et surtout, la polémique porte sur le fait que le gouvernement anglais a refusé d'intégrer les programmes de l'Europe pour acheter en masse des masques. Il s'est auto-exclu pour les raisons que vous imaginez, hein, notamment des raisons de Brexit, même si le ministre de la Santé hier a été obligé de faire un démenti et de dire que c'était pas pour ça qu'il n'a pas participé à ces programmes. Et donc du coup, c'est à peu près 16 millions de masques qui sont passés sous le nez du gouvernement anglais depuis 2-3 semaines. Donc la polémique est en train de monter ici. Mais bon, dans des proportions semblables à celles de la France, je crois.
Voilà, mais je pense que c'est un peu partout dans le monde, en fin de compte. Alors, Sébastien, j'en profite aussi, en tant que spécialiste des littératures latino-américaines, j'avais envie d'évoquer rapidement avec vous Luis Sepúlveda, qui écrivain chilien, qui est mort le 16 avril dernier à Oviedo, en Espagne, à l'âge de 70 ans, victime a priori du coronavirus. Donc pour vous, que représente Luis Sepúlveda, Sébastien Rutès?
C'est très triste, hein. C'est effectivement, vous l'avez dit, 70 ans, il était vraiment dans la force de l'âge. Je ne le connaissais pas spécialement, mais enfin, je l'avais rencontré quelques fois, puisqu'il vivait depuis de nombreuses années maintenant dans les Asturies, à côté de Gijón. Et vous savez qu'à Gijón, il y a tous les ans un festival de romans policiers important, la Semana Negra, à laquelle je suis allé très souvent. Donc on se croisait là-bas. C'était quelqu'un vraiment, c'était une force de la nature. Hein. Et il a été le premier malade déclaré dans toute la région du nord de l'Espagne. Mm-hmm. Et il est resté longtemps à l'hôpital. Enfin, j'avais entendu parler de sa contamination il y a au moins un mois. Il s'est battu très longtemps contre la maladie. C'est très triste. C'est un auteur que moi j'avais découvert, comme la France et comme pratiquement le monde entier, au début des années 90, avec la traduction française du vieux qui lisait des romans d'amour, ce très beau roman. Et c'est cette traduction en France, aux éditions Anne-Marie Métellier, qui lui ont donné une projection mondiale qu'ensuite il a conservé tout au long de sa carrière. C'est un auteur qui, moi, me touche beaucoup. J'aime beaucoup ses textes patagons, notamment. Tout ce qui est très influencé par d'autres auteurs qui me plaisent beaucoup, comme Francisco Coloane, par exemple. Non, c'est très triste. Mais j'en profite pour dire que la veille est décédé aussi un autre grand écrivain latino-américain, très proche du roman noir. C'est le Brésilien Rubén Fonseca, qu'on connaît moins en Europe. Il n'est pas décédé du coronavirus, lui, mais il avait 95 ans. Juste la veille du décès de Sepúlveda, et c'est vraiment un auteur qui mériterait d'être redécouvert chez nous, des romans comme Bufo Espalanzani, Agosto. C'est un très très grand auteur du roman noir latino-américain.
Merci de cette évocation aussi, Sébastien Arutès. Alors, on en arrive à Mictlan. Donc, première chose, la Noire, vous faites votre entrée chez Gallimard et dans une collection prestigieuse, Antoine Gallimard, au moment où cette collection a été relancée, hein, il y a un an à peu près. Expliquer que cette collection, la Noire, qui avait existé dans les années 90, début des années 2000, qui s'était interrompue, créée à l'époque par Patrick Reynal, la Noire a pour vocation d'accueillir des romans dits noirs destinés à un lectorat plus éclectique, préoccupé d'une esthétique avant de l'être d'une thématique. Ça vous correspond, Sébastien Rutès?
Je sais pas vraiment à quel lectorat je suis destiné. Enfin, en tout cas, je ne pose pas la question quand j'écris de savoir si mes lecteurs sont plus intéressés par mon style que par les thématiques. J'essaie de mener les choses de front et effectivement de porter une attention au style, mais à l'égal du fond, j'essaie de marcher sur les deux pattes, disons. Mmh.
Mais en tant qu'auteur, c'est important quand même pour vous, cet aspect, le style, la forme. On en reparlera à l'occasion notamment de ce roman. On a le sentiment qu'il y a un effort important au niveau de la forme de l'écriture.
Oui, je crois que chaque histoire doit trouver son propre style. Vous disiez tout à l'heure que je suis un écrivain éclectique. C'est vrai que j'ai écrit des romans très différents sur le thème, les époques. Mais à chaque fois, je crois aussi que j'essaie de trouver une langue différente qui convienne à ce que j'ai besoin d'exprimer. Donc celui-là, par la particularité de son thème, on y reviendra sans doute, appelait un style qui était particulièrement original, particulièrement travaillé. Mais je ne crois pas avoir fait sur ce roman-là une recherche stylistique ou un travail stylistique supérieur à celui de mes romans précédents.
Alors, un dernier mot hein, par rapport à cette collection, à cet éditeur prestigieux. On est quand même assez loin de vos débuts où vous éditiez les premiers romans chez Latinoir, éditeur marseillais qui se consacrait essentiellement justement aux littératures latino-américaines. C'est un peu une consécration d'arriver dans une collection aussi prestigieuse que La Noire chez Gallimard ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne dirais pas que c'est un objectif, mais c'est une consécration. Ce qui sera la véritable consécration, ce sera d'y rester. Parce que, comme vous l'avez dit, j'ai déjà édité chez Latinoir à mes débuts, et puis ensuite chez Actes Sud, et puis ensuite deux romans chez Albin Michel, et maintenant chez Gallimard. Je crois que la véritable consécration, ce sera de me poser quelque part et de réussir à y rester.
Bon, on sera vigilant à cela, Sébastien Hutès. Alors, Midclan, c'est une histoire de camion. On reviendra sur l'aspect camion. Un camion frigorifique qui est conduit par vieux et gros de conducteurs qui parcourt une autoroute dans un pays assez désertique. Un camion frigorifique qui contient 157 cadavres et donc qui traverse un pays soumis, on le sent quasiment à toutes les pages, à une violence terrible et à la corruption. C'est sur la demande du gouverneur de ce pays que ce camion circule pour faire oublier en fin de compte son contenu. Et vous expliquez que cette histoire, elle vous a été inspirée d'un fait réel, Sébastien Hutès.
Oui, c'est une histoire qui s'est passée, le fait divers qui m'a inspiré cette histoire s'est passé en septembre 2018. On a découvert un camion frigorifique en panne sur un terrain vague dans la banlieue de Guadalajara, qui est la troisième grande ville du Mexique. Et les voisins ont été attirés par l'odeur. Et donc, ils se sont approchés, ils ont découvert à l'intérieur des cadavres. Le premier chiffre qu'on a avancé, c'est 157, je l'ai gardé, puis ensuite, au fur et à mesure, le gouvernement a fait des démentis. Et après enquête, on s'est aperçu que, en réalité, ce camion avait été loué par les services du procureur, parce que dans cet état, donc c'est le Jalisco, cet état du centre du Mexique, le nombre de morts dans les morgues était trop important pour qu'on puisse le conserver. Il y avait plus de 400, 500 morts en attente pour à peu près 40 places dans la morgue de l'Institut médico-légal. Et donc, ils avaient loué deux, voire trois, ce n'est pas très clair, camions frigorifiques depuis 2 ans. Et ils les avaient entreposés dans divers endroits, et à chaque fois, il y avait eu des problèmes avec les voisins, donc ils les avaient déplacés, et puis finalement, ce camion-là s'était embourbé, et puis on l'avait oublié. Et puis la réfrigération est tombée en panne, et les voisins l'ont découvert là. Donc ça a été un grand scandale au Mexique, non pas tant, comme on pourrait s'y attendre, pour le nombre de victimes, parce que, comme vous le savez sans doute, le Mexique est un pays en état de guerre larvée. On compte à peu près 250 000 morts victimes de la guerre contre le narco depuis 2007. L'année dernière a été une des plus violentes de ces dernières années avec un peu plus de 30 000 victimes. Donc pas tant pour le nombre de morts, mais pour le fait que c'était le gouverneur, c'était les autorités qui avaient loué ces camions.
Oui, donc inspiré d'un fait réel. Alors, dans votre roman, vous n'évoquez pas le Mexique. Hein, on ne sait pas dans quel pays on se trouve. On l'imagine, on devine, mais vous ne citez pas le Mexique en tant que tel. Donc, je l'évoquais tout à l'heure. Vous parlez donc d'un gouverneur, donc d'un régime politique un peu particulier, mais néanmoins, quand même, avec une campagne électorale des élections. Alors ce type de personnage est donc une campagne électorale et ce gouverneur qui veut masquer cette violence, cette corruption. Mais ce type de personnage a besoin d'élections pour régner.
Alors comme vous l'avez dit, c'est le Mexique sans être le Mexique. J'ai retiré tout ce qui pouvait permettre d'identifier formellement le pays. Parce que même si la situation du Mexique due à la guerre que mène l'État contre les trafiquants de drogue est particulière, on pourrait transposer ça à un certain nombre de pays d'Amérique latine, notamment des pays voisins comme le Honduras, le Salvador, par exemple. Donc j'ai retiré tous les noms propres, j'ai retiré tous les noms de lieux, tout ce qui permettait de l'identifier formellement. Mais évidemment derrière, il y a ce fait divers du Jalisco. Le Mexique est un État fédéral, donc avec des États qui sont gouvernés par des gouverneurs. Donc ce que j'adopte là, c'est la structure politique d'un État fédéral à la mexicaine. Et au Mexique, vous le savez sans doute, la corruption, comme dans beaucoup d'États latino-américains, mais particulièrement au Mexique, la corruption est une tradition depuis au moins la Révolution mexicaine, donc un peu plus d'un siècle. La collusion entre les autorités et notamment les gouverneurs avec les différents trafics de drogue, je dis les gouverneurs, mais enfin ça vaut aussi pour les présidents de la République, la collusion entre les gouverneurs et les trafics de drogue est avérée. Et évidemment, ils ont besoin de la mascarade démocratique pour se maintenir au pouvoir. Vous savez que jusqu'à peu près 2000, quand le président Fox a été élu, depuis les années 20, ça a toujours été le candidat du même parti politique qui a été élu au Mexique. Fox a été élu, donc il n'était pas membre du parti du PRI, du parti institutionnel, mais il appartenait à une émanation du PRI. Donc c'est une espèce de continuité politique basée sur une mascarade démocratique.
Voilà, donc ça on le sent bien effectivement dans le roman vu le contexte. Alors en fin de compte, vous avez fait le choix, Sébastien Ruttez, de nous faire accompagner, nous les lectrices, les lecteurs, ce camion. Et j'ai envie de dire, quand le camion roule, il roule quasiment tout le temps, hein, puisque les arrêts sont interdits, vraiment, histoire de faire le plein, et c'est tout, le plein du réservoir. Mais quand le camion roule, j'ai envie de dire, on roule avec. Hein. Vous avez fait le choix, on parlait tout à l'heure de la forme, du style. Des virgules, pas de points, des phrases qui s'étirent sur plusieurs pages, en fin de compte pour entraîner le lecteur quelque part dans une forme de léthargie que peut créer la conduite des heures durant sur autoroute.
Oui, donc l'idée de base du roman qui là est totalement fictionnelle, qui part du fait divers de Guadalajara, c'est que le gouverneur à trop de cadavres, il a été élu sur des promesses de sécurité, il a promis de rétablir la sécurité dans l'État. Donc au moment de vouloir se faire réélire, il a besoin de cacher ses nombreux corps qui prouvent que il n'a pas fait ce pour quoi il a été élu. Donc il les met dans un camion en donnant l'ordre à deux chauffeurs de conduire sur les routes et de ne s'arrêter que lorsqu'on le leur dira, une fois que les élections seront passées. Le style, les phrases qui sont des phrases longues jusqu'à une dizaine de pages, effectivement, vous l'avez bien compris, dans un premier temps, a pour objet de rendre la monotonie du trajet en camion, de ces deux personnages qui tournent en rond dans le désert. Donc les phrases ne sont pas seulement longues, elles sont circulaires. Oui. C'est-à-dire que la fin des phrases répond au début, elles sont concentriques, elles rendent cette idée de mouvement perpétuel du camion. Et puis, en même temps, elles se veulent aussi une sorte d'allégorie du destin de ces deux personnages qui lui-même représente notre destin à tous, c'est-à-dire cette espèce de fuite en avant, sans but, sans savoir où on ira, ni quand tout ça s'arrêtera. Donc, c'est une sorte de métaphore de notre condition mortelle, si j'ose dire. Oui. Et puis, bien entendu, c'est aussi, au plan littéraire, une façon d'impliquer le lecteur, de lui dire voilà, tu es embarqué dans cette galère avec nous, c'est un lecteur captif. De lui dire tu ne vas pas pouvoir sortir, toi aussi tu es comme eux, toi aussi tu es dans le camion. Il y a à un moment donné cette métaphore que fait Gros, qui compare Dieu avec un conducteur de camion, et il dit quelque chose comme Dieu conduit le camion, mais il ne sait pas ce qui se passe à l'arrière. Donc le camion, c'est le monde, tout le monde est impliqué là. Et puis c'est une façon de dire au lecteur, pour sortir d'ici, il n'y a qu'une façon, c'est qu'il va falloir que tu sautes en marche, que tu sautes par la fenêtre, que tu t'écrases sur le bitume, parce que sinon, tu es avec nous jusqu'au bout, quoi.
Alors bien sûr, la mécanique va se dérégler et bon, et c'est bien entendu le système de réfrigération qui va tomber en panne et qui va entraîner nos deux chauffeurs dans des péripéties. Mais en fin de compte, bah, vous avez commencé à l'évoquer, c'est aussi un roman sur la mort, puisque bon, ces deux conducteurs savent très bien où ils vont. Ils tournent en rond. Ils n'ont pas de destination précise, mais ils savent très bien que, et d'une, s'ils s'arrêtent, de toute manière, ils sont surveillés et leur sort sera vite réglé. Et puis, s'ils continuent, de toute manière, ça finira de la même manière. Et d'ailleurs, c'est aussi le choix du titre, hein, qui est une référence à cet aspect. Vous pouvez vous donner la définition du titre dans la traduction, hein, du mot de Mictlan. Sébastien Rutès, vous pouvez préciser donc un petit peu cet aspect, en redonnant bien entendu la définition de Mictlan.
Oui, alors dans la cosmogonie aztèque, le monde est un monde vertical. Les vivants vivent sur un plan intermédiaire, hein, qui s'appelle Tlaltipac, et il y a un plan supérieur qu'on appelle les 13 ciels, et puis il y a un plan inférieur, l'inframonde, qui est constitué de 9 régions. Et c'est là que vont les âmes de ceux qui sont morts dans des conditions normales, c'est-à-dire pas dans des conditions sacrées, donc par exemple pas à la guerre ou pas sacrifiés, ceux-là descendent dans l'inframonde et ils doivent traverser les 9 régions. C'est un voyage qui dure à peu près 4 ans et c'est le temps pour leur corps de tomber en poussière. Donc ils traversent des régions où leur corps est trituré. Alors par exemple, ils traversent des régions de montagnes d'obsidienne extrêmement coupantes qui coupent leur chair, ou des régions de tempêtes où les pierres sont emportées et de même détruisent leurs os. Donc c'est le processus de putréfaction du corps. Et Mictlan, c'est le dernier niveau. C'est la dernière région de ces 9 régions. C'est là où règne le seigneur de la mort, hein, qui s'appelle Mictlantecuhtli. Et c'est là que, enfin dépouillé de son corps matériel, l'âme va pouvoir se fondre dans le grand tout pour recommencer un nouveau cycle.
La vraie mort, en quelque sorte. Et puis, parce que quand on lit votre roman, on a ce sentiment-là, c'est le repos éternel n'est pas garanti, en particulier donc pour les cadavres, hein, qui sont dans le camion que vous faites circuler sur ces autoroutes d'Amérique latine. Et on a l'impression, d'ailleurs, et vous écrivez, une fatigue que même des années de mort ne suffisent pas à faire passer pour ces cadavres. Donc cette mort qui n'est même pas une délivrance, en fin de compte.
Exactement. L'idée du titre ici, c'est que en réalité, on est déjà arrivé à Mictlan. Les personnages sont déjà dans Mictlan. Ce monde désertique dans lequel ils errent, c'est déjà la fin du voyage. Donc c'est l'idée que l'espoir dans l'après n'est pas permis. Il y a dans la cosmogonie des peuples précolombiens une espèce de circularité. Lorsqu'on meurt, eh bien, on permet la régénération du monde, on permet au soleil de reprendre des forces par le sacrifice, par le sang, par la mort. Et donc, tout est cyclique. Ici, il n'y a pas d'espoir. Au départ, notamment, après, les choses changent un petit peu à la fin du voyage. Mais au début, il y a cette idée qu'il n'y a pas d'espoir, hein, qu'il tourne en rond, qu'il n'y a pas de but, que la route est droite, mais qu'elle ne se termine jamais, en réalité.
Oui, en fin de compte, c'est un roman sur la mort, mais aussi quelque part sur l'infini. Et à ce niveau-là, vous ne vous donnez pas de limite, Sébastien Rutès. C'est logique.
Oui. Alors, je voudrais pas devenir métaphysique, mais c'est effectivement tout le voyage du roman est un voyage horizontal, circulaire et horizontal. Et finalement, dans les dernières pages du roman, gros et vieux, réussissent à introduire de la verticalité, c'est-à-dire à se sortir de cette horizontalité et à se donner un espoir. C'est l'idée que Gros évoque à un moment donné, que vers la fin, que la route se prolonge dans les étoiles, en invoquant ce mythe des Indiens du nord du Mexique, selon lequel les étoiles sont les feux de camp des âmes des morts qui voyagent vers le ciel. Donc sa route verticale, horizontale, est finalement remplacée par une route verticale vers le ciel. Donc, il y a là une lueur d'espoir à la fin du roman.
Mmh. Vous aimez les camions, Sébastien Ruttez ?
Non, pas spécialement.
Les histoires de camions, peut-être.
Mais à part le salaire de la peur, je veux dire que j'en connais pas beaucoup. Je suis pas quelqu'un de fasciné par la mécanique. Je dois même vous avouer que j'ai même pas mon permis de conduire. J'ai à peu près jamais touché à un volant. Donc non, c'est pas la mythologie de la route qui m'anime.
Oui, bon, mais bon, un clin d'œil, bien entendu. Bon, vous avez évoqué le salaire de la peur, un roman de Georges Arnaud mis en cinéma par Clouzot, hein, avec Charles Vanel et Yves Montand. Bon, il y a d'autres grands romans et grands films, Gasoil, Duel aussi. Je pense que Bictlan va venir compléter cette série de romans où le camion a une place importante. Mais plutôt que ces références, vous placez votre roman sous le signe d'un écrivain, Beethoven, hein, vous donnez une citation de Beethoven, un écrivain qui du début du XXe siècle, qui a écrit dans la première moitié du XXe siècle, qui est originaire de Pologne, d'Allemagne, et qui est parti vivre, je pense, au Mexique, Sébastien Ruttez, et qui a écrit des romans d'aventure, mais qui vont au-delà de ça. Sans doute le plus connu, c'est Le Trésor de la Sierra Madre, qui a aussi donné un film célèbre. Et peut-être un de ces romans qui vous a le plus inspiré, c'est Le Vaisseau des Morts.
Oui, effectivement. Alors la citation est tirée d'une nouvelle qui s'intitule Le Visiteur du Soir. Je ne sais pas si vous la connaissez. Le narrateur vit dans la forêt et on lui demande de garder pendant quelque temps la maison d'un ami à lui qui part en voyage. Donc il est tout seul dans cette maison et il commence à avoir des apparitions. Et un personnage vient le voir le soir, visiblement un fantôme, pour se plaindre de quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre et d'une souffrance que le personnage n'arrive pas à comprendre. Il s'avère que finalement il y a une espèce de tumulus aux abords de la maison, plus ou moins au fond du jardin, et que les porcs, les cochons de la maison, qui a un certain nombre d'animaux, ont réussi à entrer dans le tumulus et dévorent le corps de la momie. Et en fait, c'est le fantôme qui vient pour essayer de faire comprendre au propriétaire de la maison que ces cochons sont en train de détruire le tumulus et de le manger petit à petit. Donc la nouvelle en question là est très liée, évidemment, avec le propos de Mictlan, avec cette idée que vous évoquiez tout à l'heure, que même la mort n'est pas un repos, et qu'une fois mort, on peut continuer à souffrir de la même façon que l'on souffre ici.
J'avais l'impression qu'il était mort depuis longtemps déjà, et qu'il ne vivait encore que parce qu'il avait oublié qu'il était mort, parce que personne ne s'en était aperçu, et personne ne l'avait prévenu. Voilà hein, la citation de Beethoven qui figure donc en début de Mictlan, roman de Sébastien Ruttez, aux éditions Gallimard, dans la très belle collection La Noire. Merci Sébastien Ruttez.
Merci à vous, Guy.
Ouais. Et puis donc, on va se quitter avec un morceau du groupe ACDC, dont le titre aurait peut-être pu aussi être celui de votre roman « Highway to Hell ».
Ok.